Écris d'ici. Avec le CIALA. C-I-A-L-A.
Collectif interculturel d'auteurs de Loire-Atlantique.
Rencontrer un auteur, ça vous dit ?
Alors, retrouvez-nous le deuxième mercredi du mois à 17h30 sur Jet FM 91.2.
Et en podcast sur jetfm.asso.fr. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Bonjour Florence.
Bonjour.
Bonjour André. Et bien sûr, bonjour Béatrice Nourry.
Bienvenue dans Écris d'ici, une nouvelle émission dans laquelle le CIALA recevra, tous les mois, un ou une auteure et son ouvrage. Aujourd'hui, Béatrice Nourry. Béatrice Nourry, tout d'abord, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous te recevons pour parler avec toi de ton dernier ouvrage, Le Courage de Marie, paru en 2018 aux éditions Nouvelle Plume. Pour commencer, peut-être nous dire un peu comment t'es arrivée à l'écriture, hein, ou la place de l'écriture, enfin quelque chose autour de cela.
Alors l'écriture, ça date depuis longtemps, parce qu'en fait, quand j'étais gamine, j'écrivais des poésies, beaucoup, et puis j'écris un roman quand j'étais ado. Et puis la plume est revenue vers moi, en fait, en 2013. Et là, j'ai vraiment beaucoup écrit. Il y a plein d'histoires qui sont revenues, justement, sur le papier. Et j'ai écrit plusieurs romans. En 2016, en fait, j'ai envoyé deux romans à des éditeurs différents. Et c'est Nouvelle Plume, en fait, qui a proposé de m'éditer pour Le Courage de Marie. Enfin, celui qui est devenu Le Courage de Marie, qui est sorti dans le Club France Loisirs, en fait, en 2017. Et qui est en librairie depuis 2018. Donc voilà le démarrage.
Merci beaucoup.
Alors, Le Courage de Marie commence à l'été 1916, en pleine Première Guerre mondiale. Marie est une jeune femme de 26 ans, institutrice. Elle est enceinte. Son mari est au front. Elle a la charge des deux enfants que celui-ci a eu d'un premier mariage. Elle est volontaire à la Croix-Rouge. Les lieux, Bouvron, Nantes, deux hôpitaux de campagne, le Vignoble. Au fil de la lecture, on va suivre Marie, sa famille, ses rencontres, jusqu'à la fin de la guerre et l'après-guerre.
Été 1916 à Paris. Marie était arrivée le lundi à la capitale. C'était la première fois qu'elle prenait le train. À la gare d'Orléans, elle prit le premier omnibus vers les Invalides. L'hôtel des Invalides était une ruche, une ville dans une ville. Après avoir été conseillée et orientée, Marie se rendit dans le service des officiers où son mari avait été transporté 3 semaines plus tôt. Il avait été blessé à Verdun. « Madame, vous cherchez quelqu'un ?» Marie recula, sourit, tendant la lettre qui précisait tous les détails du service où était soigné son mari. « Marie-Madeleine Guillet, je viens voir mon mari. Je viens d'arriver à Paris, on m'a indiqué cet étage. »« C'est que vous êtes au service des grands blessés, je ne sais pas si dans votre état... » Inconsciemment, Marie mit la main sur son ventre, elle était enceinte de 7 mois. Martin Guillet est dans le dernier lit sur votre gauche, madame. On lui a donné un calmant il y a peu. Peut-être dort-il déjà. Comment va-t-il? Ses jours ne sont pas en danger, mais je préfère vous avertir. Son visage est bandé. Marie se raidit, mais ne commenta pas. Le lieutenant ouvrit la porte. Elle se dirigea vers le fond de la grande salle. Marie s'avança, le cœur battant à la chamade du plaisir de retrouver son mari. Mais son sourire se figea sur ses lèvres et les larmes coulèrent bientôt en silence. L'homme qui était sur le lit aurait pu être n'importe qui, elle ne le reconnaissait pas. Les bandages entouraient la tête, le cou et le bras droit, les jambes étaient recouvertes d'un pont de métal sous un drap. Quand elle comprit que Martin s'était endormi, elle resta encore quelques instants à le regarder, sans craindre que l'horreur se lise dans son regard. Elle quitta les Invalides comme si elle fuyait.
Merci André. Alors, nous sommes au cœur du sujet. Donc, ma première question, qu'est-ce qui t'a amené à choisir la Première Guerre mondiale ? C'est quand même une période plus que chaotique. Voilà.
Alors, choisir, je ne sais pas. En fait, pour tout vous dire, en fait, l'idée du livre m'est venue après un rêve. Enfin, presque un cauchemar, mais c'est un mauvais rêve, on va dire. C'est la première scène. Et après, bah, j'ai brodé, j'ai imaginé, je suis partie là-dessus. Et c'est vrai que 14-18, moi je suis plutôt Moyen-Âge en fait, dans mon appétence à l'histoire. 14-18, c'est un peu tardif pour moi. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi cette idée de... on en parlait beaucoup puisqu'on est encore dans le centenaire de l'après-guerre pour le coup. Hein, on n'est plus dans le centenaire de 14-18, mais dans celui de l'après-guerre. Et c'est une période tellement exceptionnelle, tellement tragique, que je trouvais intéressant de travailler là-dessus aussi, sur la place de la femme, justement, sur le fait de vivre 4 ans avec les hommes partis au front, de tout gérer, et puis de voir les hommes revenir ou pas. Et quand ils revenaient, ils étaient cassés de l'extérieur ou de l'intérieur. Et ce travail psychologique, je trouvais très intéressant.
Mais alors, en avant. Ouais. Donc, ça veut dire qu'au niveau de la documentation, ça a dû être quand même un gros travail, parce qu'on a quand même plein de détails sur ce que vivent les gens, justement, sur au quotidien, qui a dû demander beaucoup de recherches.
Alors, oui et non. Oui, parce qu'évidemment, oui, moi, en plus, c'est vraiment... Comment dire, la matière histoire, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, je suis très sensible à ça et je vais être tout le temps là-dedans, en fait. Donc, et j'ai besoin, justement, de créer quelque chose de très réaliste et plus que de vraisemblable, en fait, surtout pour 14-18. Et puis, non, parce qu'en fait, on en parle tellement, il y a tellement d'ouvrages, tellement de documentaires. On en a beaucoup parlé, même avant le centenaire, hein, évidemment, que c'est quelque chose qui est assez proche de nous. Enfin, voilà. Et puis, moi, j'ai la chance, du coup, d'avoir des grands-parents qui étaient nés à cette époque-là, qui l'ont donc vécu, en fait, justement. Ma grand-mère paternelle est née en 1900. Donc, elle l'a vécu, 14-18, jeune, évidemment. Et donc, elle racontait quand même, ça distillait un petit peu, pas beaucoup, mais ça distille un peu d'informations comme ça. Donc, c'est des choses que j'ai pu reprendre, hein, même si c'est absolument pas bio.
Alors justement, tout à l'heure, tu parlais un peu de la place des femmes. Hein, donc, c'est vrai que ton livre est une vraie chronique sociale. Le choix d'un personnage qui semble cristalliser plein d'enjeux de l'époque, en tout cas, une certaine liberté de mœurs dans ce qui est décrit, dans une époque qui pourtant n'était pas forcément favorable aux femmes. La question de l'origine sociale, la question de l'engagement, la question de la création, hein, avec l'histoire de l'école. Comment tu l'as construit, ce personnage, c'est-à-dire un peu ce que tu viens de dire, il est apparu ou voilà, il a une fonction bien précise dans ton écriture, dans ton roman.
Alors Marie, c'est un personnage qui est, elle est dans l'action, Marie. Elle a vraiment envie de bouger, de s'exprimer, de faire des choses. Enfin, c'est vraiment ça. Et je pense que, en fait, oui, cette idée de mettre la femme en valeur, ça, c'est quelque chose qui me motive, évidemment. La place de la femme dans l'entreprise, enfin, par rapport à mon métier, par rapport à mes engagements professionnels, c'est ça aussi. Et je trouvais que c'était intéressant, justement, de travailler là-dessus. Après, je ne l'ai pas imaginé. Elle est venue un peu à moi aussi, en fait. Hein. En tout cas, dans mon cas, je ne maîtrise pas toujours ce que j'écris. Donc, le personnage s'est tissé un peu comme ça, en fait. Et le personnage de Jean aussi. Par contre, je me suis rendu compte, en fait, en écrivant plusieurs romans, que j'avais justement cette mise en scène de ces personnages. Donc, Marie, Jean, avec toujours la même identité ou les mêmes caractères, mais qui vont vivre ça différemment en fonction de de la période où ils vont vivre. Donc, c'est intéressant, ça aussi, de créer justement un lien En imaginant qu'en fait, quelle que soit la période historique, la contingence religieuse, parce que dans certaines époques, la religion est très très prégnante, les contingences économiques ou politiques ou de guerre, chaque individu va avoir l'occasion de s'exprimer et d'aller au bout de ses rêves, aller au bout de sa vie en fait.
Et la relation de couple, enfin moi j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est, en tout cas dans cette période de Première Guerre mondiale, de retour du front, c'est pas toujours un sujet qui est traité, quoi, parce que bon, on parle beaucoup évidemment des blessés, des traumatisés, du rôle des femmes, mais là la relation de couple qui est quand même complètement à reconstruire, quoi, c'est que les hommes reviennent ou pas, de toute façon rien ne sera plus jamais comme avant.
Non, tout à fait. Ça a dû être un cataclysme, d'ailleurs, hein, parce que bon, bah, la femme, évidemment, elle avait pendant 4 ans travaillé à la ferme, travaillé à l'usine, et puis tout d'un coup, elle voit son homme revenir. Donc forcément, c'est le bonheur. Mais en même temps, il faut lâcher des choses, il faut faire des concessions. Bon, ça a dû être vraiment compliqué. Mais de la part de l'homme aussi, 4 ans de carnage, on ne revient pas indemne, et on n'a peut-être pas envie de revenir dans la place qu'on avait avant. Mais par contre, la société fait qu'on est obligé. Donc ça a dû être vraiment des dilemmes énormes, je pense, à ce niveau-là. Et je trouvais, j'avais vraiment envie aussi de faire parler le... En fait, je crois que j'aime bien témoigner, même si personne ne me parle de ça, mais cette idée de faire témoigner les gens du quotidien, en fait. L'histoire, elle a été écrite par le monsieur tout le monde et madame tout le monde. Et je pense que ça, en fait, justement, la notion de recréation du couple, en fait, après la guerre, on n'en parle pas. On parle des gueules cassées, on parle de l'économie, mais on ne parle pas du conflit en milieu familial et en milieu intime, en fait, qui a dû perdurer.
Bien, on va faire une petite pause musicale. Alors justement, on va écouter un morceau des Harlem Hellfighters, un orchestre du 369e régiment d'infanterie américain qui s'est produit au théâtre Gralin en 1918. Et oui, le morceau s'intitule « Memphis Blues ».
On va parler aussi de l'écart de classe qu'il y a entre Jean et Marie et qui va être sensible dans ce texte. Le dîner avait été délicieux. Marie se sentait gênée cependant dans ce cadre précieux en présence de personnes de la haute, comme disait son père. En effet, comme chaque année, Hélène de Trélan fêtait l'anniversaire de son fils disparu. La maîtresse de maison commentait les violents affrontements qui avaient eu lieu au cours du 1er mai un peu partout en France. Le docteur Mathurin se plaignit des difficultés à trouver des gens de maison dignes de confiance, à disserter sur les conditions d'insalubrité des ouvriers de Nantes. « Vraiment, comment ça, Eugénie ? Je n'arrive pas à comprendre comment ils font pour vivre dans ces conditions. » On m'a même dit que certaines femmes font commerce de leur corps, comme pendant la guerre, avec les soldats en permission. Ce sont des juives, certainement. Marie n'y tint plus. Vous devriez cesser de parler de choses que vous ne connaissez pas vraiment ou que vous ne comprenez pas. Les petites gens, comme vous dites, sont ceux qui ont donné leur vie pendant la guerre. Ce sont ceux qui ont perdu un père, un frère, un mari, celles qui ont travaillé dur au champ ou à l'usine pour des salaires de misère et souvent 7 jours sur 7 au plus fort du conflit, sans pouvoir s'occuper de leurs enfants, pendant que leurs hommes se faisaient tirer dessus. Imaginez, vous fabriquez un obus et vous savez parfaitement qu'il va tomber sur un homme comme le vôtre, même si c'est un boche. Vous travaillez jusqu'à 10 heures par jour pour voir revenir votre mari avec une gueule cassée. Ces petites gens, ce sont ceux qui se saignaient pour envoyer un colis au front. Sinon, les poilus des tranchées n'auraient rien mangé, tandis que les officiers étaient à l'arrière, dans des châteaux, à manger à leur faim, à dormir dans des lits. Nous devrions plutôt être admiratifs devant ces femmes qui ont donné toute leur âme pour aider les soldats et qui en vivent encore les conséquences. Et au lieu de fustiger les Juifs qui se sont battus comme nous et de faire un procès à d'autres Dreyfus, rappelez-vous que les obus, eux, ne font aucune différence sur le champ de bataille. Vous n'en connaissez même pas personnellement des Juifs. Alors de quoi parlez-vous ? Allez donc questionner les généraux incompétents qui ont fait s'enliser les combats et se complaisaient à jouer avec leurs soldats comme s'ils étaient en plomb. Et ceux-là, croyez-moi, ils sont peut-être tous de très bons catholiques, mais ils ne l'emporteront pas au paradis.
Ça, c'est un autre thème du livre, Béatrice, la question de la mésalliance. En tout cas, c'est comme ça que nous, on l'a lu, hein, les différences de milieu. Alors, c'est vrai que ce passage est délicieux, pourrait-on dire, de ce que ça met en scène. On voit les personnages. Pareil, quelque chose qui se tisse, hein, comme tu disais tout à l'heure, ça vient à toi, ou aussi une envie peut-être de mettre en scène ces deux mondes, hein, c'est-à-dire ceux qui sont allés se battre et ceux qui sont plutôt restés sans se battre.
Oui, pour 14-18, on a vraiment ça, hein, cette notion de... Enfin, dans le livre, je mets en scène aussi justement le terroir, l'exploitation viticole. Hein, donc, Madame de Trélan qui a envoyé du mauvais vin en fait, sur le front, hein, comme ça a dû arriver souvent. Hein, et puis, de toute façon, la demande était croissante hein, d'année en année hein, pour faire tenir les poilus. Il y a ces petites notions-là, quoi. Et puis, cette idée aussi, ça m'est pas venu, hein, c'est vraiment moi qui avais envie de travailler dessus, si je peux me permettre l'expression, c'est cette idée de montrer, en fait, que un milieu qui est porteur financièrement en termes de réseau, en termes de connaissances, de culture, n'est pas forcément porteur en termes de confiance en soi, d'idéal et puis de réalisation de soi. Et c'est ça que je voulais vraiment aussi ancrer. Que Jean, il est très aidé, mais en même temps, lui, c'est pareil, il a fui, en fait. Hein. Il est parti sur le front parce qu'il ne voulait pas rester chez lui, dans sa famille. Il est obligé d'y retourner. Donc, c'est là qu'en fait, il redevient l'enfant qu'il était et c'est ce qu'il voulait fuir. Et Marie, par contre, elle a été portée par ses parents, même si c'était des conditions... ce sont des artisans tout à fait normaux, humbles. Et par contre, elle a été poussée, vas-y, quoi, ma fille. En plus, ma fille, quoi. Et pas forcément mon fils, mais ils faisaient pareil avec leurs enfants hommes. Et c'est ça que je voulais vraiment montrer, cette capacité, en fait, de dépasser, en fait, le cadre qu'on nous a donné, enfants, dans le familial ou sociétal, pour se dire, on peut se réaliser, quoi. C'est un petit peu mon côté énergique aussi, sans doute.
Oui, oui. Et puis, alors cette mésalliance, ça accentue encore, en fait, les difficultés du couple, quand même, hein, aussi. Parce que, bon, ils seraient issus du même milieu, ils auraient eu des difficultés, certes.
Oui, ils n'en auraient pas parlé de la même manière.
Mais là, c'est quand même, pour la famille aristocrate qui vit à Nantes, les petits artisans,
c'est... Ah bah oui, et puis en plus, elle est institutrice dans le public.
Ouais.
Donc elle est très catholique, hein, Marie. Hein. Elle va à l'église, il n'y a pas de souci. Hein. Elle est peut-être un peu anticléricale vu ce qu'elle dit là, mais elle est très catholique et très croyante.
Ah oui, elle est très croyante, fait, hein. On le voit bien tout au long du livre.
Et puis bien dans sa place à cette époque-là, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, ils se sont rencontrés, enfin Marie et Jean, l'histoire d'amour, se place à un moment, un espace-temps complètement exceptionnel, puisque c'est sur le front. Donc ils sont tous les deux en dehors de leur cadre de référence. Et donc là, évidemment, histoire d'amour fabuleuse quand même. Et puis quand ils reviennent, qui est l'autre en fait? Parce que pour certains, ils ne se permettent plus d'être ce qu'ils étaient sur le front. Et puis heureusement, puisque la guerre est finie. Mais bon, voilà. Et en fait, il y a tout le carcan qui revient et qui va les empêcher de s'exprimer. Donc forcément, ça va être conflictuel parce que Marie, elle rêve un peu. Enfin, elle est toujours dans l'action en se disant mais si je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir faire ça. Enfin, en même temps, elle est quand même chargée de famille. Elle doit quand même aussi essayer de rentrer dans sa famille, sa nouvelle famille. Et voilà, elle est un peu... elle rêve un petit peu. Mais bon, tant mieux. Il faut rêver pour pouvoir oui. avancer. Donc je pense qu'elle aidera bien Jean à revenir justement à ce qu'il est réellement, à mon avis. Mais bon, ça, c'est mon interprétation de lectrice.
C'est ce qu'on sent à la fin du livre, en tout cas. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti à la fin du livre.
Ouais, on pourrait dire peut-être deux mots clés, c'est rêve et combat, en tout cas. Hein. C'est-à-dire aller au bout de ses rêves, et puis une espèce de combat permanent pour ne pas subir la condition qui est la nôtre.
Ouais.
On n'est pas assigné à notre milieu ou à notre éducation. Hein. Et ça va pour Marie, du soin des enfants à son couple.
Mm-hmm. Hein. Oui, c'est ça.
Bien, bah écoutez, on arrive à la fin de l'émission, déjà. Alors, donc, avant de nous séparer quand même, est-ce que tu as un autre livre en chantier ou prêt à sortir ou je ne sais pas trop, enfin voilà.
Alors oui, la rentrée est assez active parce qu'en fait, j'ai un livre en chantier où je suis en train de terminer une histoire là, sur qui va se passer au XVIIIe siècle. Enfin, qui se passe au XVIIIe siècle sur Nantes pendant la traite des Noirs. Donc c'est un sujet très très sombre. Donc voilà, ça c'est ce que je suis en train d'écrire aujourd'hui. Je travaille aussi sur le prochain recueil des romanciers nantais, qui est une association donc de romanciers nantais comme son nom l'indique. Après Magie Loire qui est sortie l'année dernière, c'est un nouveau recueil qui va sortir l'année prochaine et donc je viens de terminer la nouvelle. Par contre, le thème est encore top secret. Donc ça sortira en 2020.
Et ça pourra faire l'occasion d'une nouvelle émission. Hein.
Nous sommes preneurs. Hein.
Et par contre, la grande nouvelle, et ça, c'est une super aventure qui se poursuit, c'est que mon deuxième roman va être édité avec les éditions du Petit Pavé, donc à Brissac, près d'Angers. Et il va sortir mi-octobre. Donc, je vais être sur le salon la 25e heure du livre au Mans, le week-end du 12-13. Et là, en fait, on retrouve Marie et Jean. En fait, mais au XIIIe siècle, au début du XIIIe siècle. Mmh. Donc, on a une Marie qui est en fait fille de croisée, donc croisée elle-même hein, pour l'époque, et qui quitte l'Égypte en fait avec ses enfants. Elle vient de perdre son mari. Et elle va croiser la route en fait sur la nef templière qui la ramène en Europe au-delà de la Méditerranée. Elle va croiser la route d'un chevalier templier, donc Jehan. Alors, Maria pour le Moyen-Âge et Jehan pour le Moyen-Âge de Jean. Et Jehan est un chevalier templier qui veut absolument retourner dans sa famille qui a embrassé la religion cathare, en fait, et donc qui est poursuivi par l'Inquisition. Et donc, il veut y aller pour essayer de faire quelque chose tout en remplissant sa mission qui est donnée par l'ordre. Donc voilà, donc toute une histoire d'amour, évidemment. Beaucoup d'aventures aussi, parce que le voyage, évidemment... En fait, je me rends compte que c'est une thématique aussi dans ce que j'écris. 14-18, elle part sur le front. Enfin, voilà, il y avait quand même du mouvement. Hein. Bouvron, sud de Nantes, c'est quand même du mouvement à l'époque.
C'est vrai.
Et là, bah, on est vraiment dans la traversée de la Méditerranée, de l'Égypte jusqu'aux frontières de la France. de l'époque, hein, donc traverser toute l'Adriatique, remonter par l'Italie, les Alpes, enfin voilà. Donc il va, et puis bah, plein d'échanges aussi, de dialogues, de rencontres qui vont faire se construire les personnages. Donc, super aventure, je suis super contente, super fière aussi.
Bon, c'est
y a de quoi
bah, oui, de toute façon. Donc, alors pour les auditeurs, le Courage de Marie, on peut le trouver à la médiathèque, hein, puisque moi c'est là que je l'ai, ou en librairie, j'imagine.
Oui, tout à fait.
Voilà. Mmh. Et puis le suivant, donc le titre, c'est le.
Ce sera Maria et le Templier.
Maria et le Templier.
Aux éditions du Petit Pavé.
Très bien. Alors, juste deux informations avant de nous séparer vraiment. Donc, Midi Minuit Poésie, le festival du 9 au 22 octobre. Jet sera au lieu unique, d'ailleurs, hein, comme chaque année. Et puis, du 31 octobre au 4 novembre, les Utopiales, pour les amateurs de science-fiction. Bah, vous trouverez sur les sites correspondants. Allez, au revoir à tous, à bientôt.